confidentiel. RTL. Ophélie Meunier.
Bonjour Fabrice Lhomme.
Bonjour.
Bonjour Gérard Davet.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur RTL, journaliste, auteur, grand reporter au Monde. Si on se dit que votre livre « Un président ne devrait pas dire ça » a largement contribué à ce que François Hollande ne se représente pas à l'Élysée en 2017, est-ce qu'on peut se dire que votre dernière enquête sur la principauté de Monaco ébranle de manière inédite la famille princière monégasque ?
Je pense qu'on peut le dire, oui. Pour une raison simple, c'est que rien n'avait jamais été réellement révélé sur les dessous de la famille princière, et notamment les dessous financiers. Donc je pense que oui, ça a fait bouger les choses du côté de la principauté.
Un scandale n'avait jamais été aussi loin sur le rocher.
Non, on entend souvent parler de la principauté pour les, on va dire, les raisons qu'on connaît, la princesse ou les princesses, le côté people, le côté bling-bling. Il y a eu quelques histoires qui ont beaucoup gêné la principauté, des affaires notamment de blanchiment qui ont, c'est le cas de lire, noirci l'image de la principauté, qui avait réussi à s'en sortir et à retrouver une image sur la place internationale beaucoup plus correcte. Mais en revanche, des scandales qui mettent en cause la famille princière à cette échelle, non, il n'y a pas d'équivalent.
Et on va parler d'argent notamment. Alors ce scandale, je le rappelle le plus simplement possible pour nos auditeurs qui n'auraient pas entendu le récit juste avant. Un homme, Claude Palmero, a été pendant plus de 20 ans l'administrateur de biens de la couronne monégasque. Un super comptable, dirons-nous, un comptable avec des pouvoirs élargis. Chaque action qu'il a faite pour le prince Albert de Monaco ou pour l'entourage du prince, chaque échange qu'il a eu avec lui, il l'a noté pendant plus de 20 ans scrupuleusement dans des cahiers. En 2023, il est viré comme un malpropre, je le dis de manière cash. Pour sauver son honneur, il a décidé de révéler une grande partie de ce qu'il sait sur les Grimaldi. Et ses cahiers, ces bombes à retardement qui contiennent, on va y venir donc, des révélations explosives. Gérard Davet, Fabrice Lhomme, vous y avez eu accès. Vous révélez donc les dessous de 20 ans de gestion de finances, franchement atterrante, ça vous va comme mot ?
Atterrant, en tout cas éclairante, à mon avis, parce que ça permet, je pense, aux lecteurs et aux futurs auditeurs de comprendre comment ça fonctionne. Et on voit bien que les finances du palais, c'est un puits sans fond dans lequel l'administrateur des biens, Claude Palmero, a puisé pendant justement plus de 20 ans. Et tout ça au bénéfice de la famille princière, mais peut-être, et c'est ça la vraie question, au détriment des Monégasques et éventuellement de la France, puisque
la France donne
de l'argent à Monaco.
On va préciser ça dans un instant. Avant de rentrer dans le dur, je me permets de teaser un peu, ça fait monter la sauce. Vous avez été surpris, vous, par ce que vous avez découvert ?
Alors oui, on a été surpris de deux choses. La première, c'est déjà de découvrir qu'il y avait un homme du Sérail qui prenait des notes scrupuleusement, peut-être pas tous les jours, mais quasiment avant et après chacune de ses audiences avec le prince, et qui consignait tous les secrets comme ça dans des cahiers d'écoliers. Ça, déjà, on a été stupéfait d'apprendre ça.
Stupéfait par la méthode.
Exactement. Ouais. Et ensuite, le contenu des cahiers, et pas seulement des cahiers, puisqu'on a eu accès à d'autres documents, des SMS, et puis on a eu d'autres sources, et qui nous ont révélé évidemment l'envers du décor monégasque. Et là, c'est vrai qu'on n'imaginait pas qu'il y avait eu autant de choses qui avaient pu être faites, parfois on va dire la limite de la légalité même. On en parlera sans doute de surveillance, de magistrats, etc. Et puis comme disait Gérard, ce puits sans fond, cet argent qui sort et qui est distribué qu'il demande finalement et dans des proportions hallucinantes. Oui, on a été quand même assez surpris.
On va parler de millions jusqu'à 1 milliard. En tout cas, c'est le patrimoine estimé pour la famille Grimaldi. Allez, on rentre dans le dur. On apprend beaucoup de choses dans ces cahiers secrets. J'invite nos auditeurs, évidemment, à lire votre enquête dans le détail, dans le Monde. Voici quelques grands points. On apprend, notamment, que, commençons par là, la famille monégasque n'est pas la dernière dans l'exil fiscal. Entre la Suisse, le Panama, les îles Vierges britanniques, il y a de l'argent monégasque caché un peu partout. Je pense notamment aux Panama Papers. Comment ont-ils réussi à ce point à passer entre les gouttes depuis tout ce temps avec tant d'argent ?
Alors d'abord, il y a un problème de légalité. La France n'est pas Monaco. À Monaco, il y a des réglementations qui font qu'on peut éventuellement cacher son argent de manière légale ailleurs. Ça, c'est important à préciser. Deuxièmement, Claude Palmero, l'administrateur des biens, était un comptable de haut niveau, auditeur, et qui donc a pu dissimuler cet argent sous son nom à lui, parce qu'il servait en fait de prête-nom, d'homme de paille, pour le compte d'Albert de Monaco et de la famille princière. Ce qui fait que quand on cherchait des Grimaldi dans les comptes, dans les Panama Papers et ailleurs,
on ne les trouvait pas.
Alors qu'en fait, quand on cherchait Palmero, ben, on pouvait trouver.
On pouvait trouver, et souvent. On se rapproche de la France. La famille monégasque pourrait devoir encore de l'argent au fisc français. Par exemple, un appartement dont Charlotte est propriétaire à Paris. Alors, qui est au nom, on a expliqué pourquoi, de Claude Palmero. Ça fait des années, en fait, que les impôts français pourraient réclamer l'ISF qu'elle n'a jamais donc payé. Comment c'est possible ?
Eh bien, c'est possible parce qu'encore une fois, Palmero a joué le comptable dévoué et le prête-nom. C'est lui qui est officiellement propriétaire de certains appartements, notamment celui-là. Donc, évidemment, c'est le fisc qui se tourne vers lui pour lui réclamer les impôts qu'on doit lorsqu'on possède un appartement. Il s'en acquitte, il se faisait ensuite rembourser par la principauté. Quand il n'oubliait pas de le rembourser d'ailleurs, et voilà, et ça, on n'aurait jamais été au courant si on n'avait pas eu ces révélations grâce au cahier, grâce à nos informations, et qui font qu'en réalité Claude Palmero ne mettait quasiment jamais les pieds à Paris. Cet appartement, il ne le connaît même pas, et effectivement, cet appartement, celui dont vous parlez, était utilisé au quotidien par Charlotte Casiraghi. Il faut savoir, c'est très important parce que le problème n'est pas seulement le fait que elle pouvait échapper à l'impôt sur la fortune. C'est pas grand chose en réalité, l'impôt sur la fortune, et surtout quand on a beaucoup d'argent. Non, en réalité, ça signifierait que si vous êtes domicilié en France à demeure, dans ce cas-là, le fisc est fondé à vous demander des impôts sur l'ensemble de votre patrimoine.
De votre patrimoine.
Et voilà, y compris à l'étranger. Et là, ça fait des sommes considérables.
Ils ne sont plus du tout les mêmes. On apprend aussi que, très très intéressant, le budget de la maison souveraine donc, a été géré par Claude Palmero pendant plus de 20 ans de manière hyper arrangeante. Il y a, j'essaye d'être clair, une partie qui relève des dépenses de l'État et une partie qui relève des dépenses personnelles. Jusque-là, ok. On ajoute à cela une troisième ligne assez fascinante, une troisième partie du budget que l'on nomme par deux lettres magiques, DS. Ça vous fait sourire, j'ai trouvé ça absolument incroyable. Destination spéciale. Alors ça, quand le prince veut payer quelque chose sans que ça se sache, y compris en liquide, y compris pour faire des choses un peu limites, vous allez expliquer, on va piocher dans ce budget DS. Comment on peut aussi, pareil, s'accorder à faire ce genre de manipulation quand on est le comptable du rocher ?
Eh bien, tout simplement parce que personne ne vérifie. À Monaco, le prince est absolument intouchable.
Alors, Gérard, expliquez-nous un peu ce qui payait parfois le prince ou Claude Palmero avec ce budget destination spéciale.
Tout et n'importe quoi. Voilà. On pouvait, par exemple, Claude Palmero a essayé de retrouver à louer un appartement en ville, c'est-à-dire à Monaco, pour le prince, alors qu'il a quand même un château plus une résidence. Eh bien, il a loué pour le compte du prince de manière très discrète un appartement, libre à lui de préciser pourquoi il l'a loué.
Pourquoi il l'a fait.
Ensuite, il a par exemple aussi servi ce compte DS à payer des frais qui ont été extrêmement importants pour le mariage du prince Albert. Donc il a puisé allègrement dans ce fonds, alors que normalement il y a un fonds Principauté-Palais. Ensuite, ça a servi aussi par exemple à rémunérer discrètement une jeune femme qui aurait soi-disant des photos compromettantes du prince Albert. Quoi qu'il en soit, cette dame a été rémunérée en liquide.
Pour acheter sa discrétion.
Ouais, pour acheter ses photos, les brûler et acheter sa discrétion. Donc ce fonds servait à ce qu'on aille retirer en liquide, M. Palmero, en l'occurrence, de l'argent pour toutes les opérations qui avaient l'ambition d'être clandestines.
Et ce qu'on découvre aussi, c'est que Claude Palmero, très régulièrement, enchevêtrait en fait ces lignes de budget. Donc on payait des choses de l'État avec les comptes perso, des choses du compte perso pour l'État, et parfois on complétait avec DS, avec destination spéciale. Donc finalement, toutes ces lignes budgétaires n'étaient qu'un espèce de gros magma pour payer tout et n'importe quoi.
Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, on s'aperçoit qu'il y avait en gros plusieurs caisses dans lesquelles le comptable pouvait puiser, et suivant les moments, et ben par exemple, il se disait, ah ben, le budget destination spéciale, il a déjà été dépassé cette année, et pourtant, il faudrait quand même qu'on trouve un peu d'argent pour telle ou telle personne. Bon, bah, c'est pas grave, on va piocher dans le budget.
Il y a toujours princier. Un peu d'argent quelque part.
Voilà, ou alors sinon, c'est pas grave, c'est l'État qui paiera, par exemple, pour le mariage princier. C'était les fonds de l'État qui servaient pour partie. Et c'est là qu'on a complété, qu'il n'y avait pas assez. Ça coûtait trop cher, on a complété par les fonds secrets. Donc, il y avait effectivement un mélange des genres et un mélange des caisses qui n'est pas possible de voir ailleurs qu'à Monaco.
C'est ça. Finalement, entre les lignes, qu'est-ce que ça raconte, cette gestion d'argent sur le rocher ?
Bien, ça raconte deux choses. Donc, une sorte de gabegie financière. L'argent arrive de tous les côtés, il ressort de tous les côtés, et en fait, c'est comme si c'était vraiment, pour le coup, une tirelire géante, le palais, et on en fait ce qu'on veut. Et deuxième chose, c'est qu'il n'y a vraiment aucun contrôle, en fait, sur les finances du palais. Et ça est logique, puisqu'en fait, là-bas, le prince est à la fois le Premier ministre, le roi, le prince, le président, le ministre de la Justice, il fait tout, le prince, là-bas. Ouais. Donc, il est intouchable.
Et donc, c'est évidemment pas possible de régner comme ça. On s'aperçoit qu'il y a des limites à cela, grâce à votre enquête. Un autre exemple, évidemment, Albert a deux enfants illégitimes qui coûtent très, très, très cher à entretenir. Et ça aussi, c'est...
DS,
voilà, destination spéciale, un peu perso, un peu DS, qui finance tout ça. Donc ça aussi, c'est pareil, c'est pas possible.
Oui, sachant que ce qui coûte le plus cher à propos de ces deux enfants dits illégitimes, c'est pas tellement les enfants, même s'ils touchent aussi de l'argent, mais c'est leur mère, ouais, respective, qui ont négocié, hein, avec le prince, il y a déjà des années, le fait que, comme il fallait bien subvenir aux besoins de l'enfant qu'il avait eu, qu'il fallait qu'elles aient une compensation financière solide. Et là, ça porte sur des montants effectivement astronomiques, sachant qu'en plus, c'est des montants qui sont sans arrêt, j'allais dire, réajustés. On voit à travers les cahiers de Palmero que régulièrement, c'est « Ah ben... »
Ça suffit plus.
Voilà,
l'année d'après,
la mère de son fils qui dit « Mais moi, là, j'ai besoin d'ouvrir une boutique de mode, donc il me faudrait de l'argent, là, j'ai besoin, je peux pas boucler mon fin de mois, etc. » Et en général, on voit que le prince Albert disait toujours « Oui, oui, ok. »
Quelle image a le prince Albert à Monaco ?
Bah, il est révéré, il est quasi vénéré, non pas peut-être pas respecté, mais en tout cas c'est le prince. Donc
il a malgré tout quand même cette culture de vénération.
Oui, et puis par ailleurs il est excessivement sympathique, cet homme-là. Il ne faut pas oublier ça. C'est-à-dire qu'il est simple. Quand il va dans la rue, on lui parle, on s'adresse à lui, on dit « Votre Altesse ». Mais en tout cas, on peut lui parler. Le prince Rainier était beaucoup plus distant, beaucoup plus autoritaire, beaucoup plus cassant. Donc, il a apprécié le prince Albert.
Avant d'aller plus loin, il me semble indispensable de faire un petit point, on l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, sur les relations fiscales entre la principauté et la France. Il faut savoir que la France verse à Monaco à peu près 100 millions d'euros par an. Pourquoi ? C'est une mesure en fait qui a été décidée entre le général de Gaulle et le prince Rainier en 63. Avant 63, Monaco était un paradis fiscal en fait pour les Français. Mais dans les années 60, le général de Gaulle dit stop, force Monaco par un blocus notamment aux frontières à signer une convention en fait fiscale pour obliger les citoyens français qui résident à Monaco à payer des impôts en France. Monaco finit par dire ok, mais en échange de la fin du système de détaxe, Monaco détient en fait un reversement en pourcentage d'une partie de la TVA française. Donc, en gros, depuis 63, la France reverse une fraction de sa TVA à Monaco, qui sont ces fameux 100 millions d'euros. Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça ? Ça veut dire qu'en fait, tout ce que vous racontez, cette gestion qu'on a commencé à sérieusement expliquer, cette gabegie financière, d'une certaine manière, le contribuable français, il y participe aussi.
Oui, vous faites bien de le rappeler, parce que de fait, il y a une partie de cet argent qui est dilapidé, on va dire, et de l'argent qui vient de l'Hexagone. Il faut savoir qu'il n'y a pas que ce problème-là, on va dire, par rapport à la France. Tout à l'heure, on a parlé des problèmes d'éventuelles fraudes fiscales, éventuelles. Hein. En tout cas, c'est une possibilité. Il y a cet aspect-là, l'argent des Français qui est utilisé de cette façon-là, un peu plus, pour le moins discutable. Et enfin, il y a aussi une question d'image. Parce qu'il y a des traités qui ont été signés entre la principauté de Monaco et la France, y compris des traités assez récents, qui sont des conventions, j'allais dire, qui organisent les rapports entre deux États, même si l'un est tout petit, c'est quand même un État. Mmh. Et parmi les attendus de ces traités, il est notamment indiqué que la principauté ne peut pas, on va dire, nuire aux intérêts de la France dans un certain nombre de domaines, notamment économiques, financiers et en termes d'image. Or là, on peut se poser la question de savoir si ça ne nuit pas justement à l'image de la France quand on voit qu'il y a des opérations qui peuvent, si ce n'est relever du blanchiment, mais quand, même s'il n'y a pas d'infraction, le fait de placer son argent dans des paradis fiscaux comme les îles Vierges britanniques ou le Panama, j'allais dire, ça l'affiche mal quand même. Et ça veut dire que quelque part, la France cautionnerait ce système. C'est quand même, c'est un problème.
Et j'en viens à cette question. On va continuer à aller un petit peu dans le détail aussi de tout ce que vous révélez. Quel impact, là, donc votre enquête est sortie il y a quelques semaines, quel impact ça a eu, là, depuis la sortie, et en France et à l'étranger ?
Ça a eu un retentissement absolument sidérant en ce qui me concerne, Fabrice aussi je crois, c'est que cette enquête a été reprise dans tous les médias à l'étranger, y compris les plus sérieux, le Guardian en Angleterre, mais des médias en Australie, en Amérique et ailleurs. On est assaillis de demandes de producteurs de télévision et autres pour des films, des téléfilms, etc. Pourquoi ? Parce que ça sidère, en fait. Il y a tout dans cette histoire. Il y a à la fois l'homme qui trahit, l'homme qui en savait trop. Il y a à la fois la royauté, les têtes couronnées. Il y a à la fois, évidemment, l'argent, les sommes d'argent faramineuses. Et puis, il y a aussi l'épouse, Charlène, les sœurs qui sont derrière. Enfin bref, il y a absolument tous les ingrédients pour une espèce de soap-opéra qui serait réel, quoi. Et enfin, dernière chose, c'est tout ça, c'est de l'argent réel, quoi. C'est pas justement un soap-opéra, c'est la vérité, donc ça sidère.
Fabrice, l'impact international.
Oui, ce qui nous a effectivement stupéfait, c'est que tant de médias se saisissent, j'allais dire, de l'ensemble des révélations. On s'était dit au départ, et ne vont être repris que quelques petites anecdotes, certes un peu croustillantes, mais qui sont un peu people, hein, qui concernent les relations, par exemple, entre Albert et ses sœurs, etc. Mais en réalité, non. Les médias, bien sûr, certains médias s'en sont intéressés à ça.
L'argent dépensé par Charlène.
Voilà, les dépenses somptuaires de Charlène, etc.
Oui.
Ça fait partie des révélations, évidemment. Mais on a eu le sentiment qu'à l'étranger, on s'intéressait à d'autres sujets, et tant mieux. Ce qui fait que, d'ailleurs, effectivement, aussi bien la presse people que la presse très sérieuse dans différents pays s'est intéressée à cette histoire, et notamment, on va dire, je vais pas dire que c'est des malversations, j'en suis pas sûr, mais on va dire ces mouvements financiers qui sont quand même assez peu orthodoxes.
Et ce que vous disiez, l'impact aussi d'image, c'est vrai que Monaco est très associé à notre pays, la France, et donc on peut, à notre détriment, être un petit peu associé aussi, malgré nous, à cette histoire. Revenons à ce Claude Palmero, par qui l'on apprend donc tout ça. Entre les Palmero et la famille princière monégasque, c'est une grande histoire de confiance depuis très très longtemps, en fait. Ça date de Régnier et du père de Claude Palmero. Expliquez-nous.
En fait, le prince Régnier a donc régné longtemps sur la principauté. Il avait un homme de confiance qui n'était autre que le père de Claude Palmero, c'est-à-dire André Palmero, qui était aussi son administrateur des biens et qui gérait pour lui aussi absolument tous les aspects absolument personnels. Les offshore ont été constitués à ce moment-là, au Panama et ailleurs, mais il était aussi l'homme qui régentait un peu les affaires un peu importantes immobilières à Monaco, déjà à l'époque. Et quand le prince Régnier est décédé, c'est Claude Palmero qui a succédé à son père, qui lui-même est décédé, pour prendre la suite, en quelque sorte. Mais ce qui s'est passé, par contre, c'est que Régnier n'était pas Albert et vice-versa. Et Albert est beaucoup moins puissant, beaucoup moins fort, beaucoup moins allant que Régnier. Et donc, fatalement, Palmero fils a pris beaucoup d'importance, bien plus que Palmero père.
Et est-ce qu'on peut penser que tout ce que vous révélez aujourd'hui, ça se passait déjà sous le prince Régnier ?
Alors, sans doute que le système global tel qu'on l'a décrit existait certainement sous Régnier. Après, je pense qu'il y avait quand même des différences. Je ne suis pas sûr qu'il y avait toutes ces enfants illégitimes, ces femmes à rémunérer. J'en suis pas certain. Ou alors ça a été vraiment fait très très discrètement. Donc c'était aussi une autre époque. Le système financier, oui, je pense que c'était le même. Il y a, en revanche, comme on l'expliquait précédemment, le fait que Claude Palmero ait pris une importance considérable, bien plus importante donc que celle que qu'avait son père auprès de Régnier, a fait que, j'allais dire, il a été inventif. Donc il a imaginé d'autres montages, il y a eu d'autres formes de rémunération, il y a eu des missions très spéciales qui peut-être n'avaient pas cours sous Régnier, parce que tout simplement, l'administrateur des biens avait moins de pouvoir.
Et comme on dit, quand on nage dans une eau polluée, on finit forcément par être polluer soi-même. Palmero gère les comptes, fait fructifier l'argent, propose des placements avantageux, y compris à la limite de la légalité, et il prête son nom partout et à tout le monde. Il y a donc plusieurs dizaines de structures ou d'appartements qui légalement lui appartiennent. Il se présente, quand on lit votre dossier, comme dévoué, loyal, travailleur. Bref, il dit voilà, moi j'ai tout fait, quoi. J'ai été un homme tellement bon. Non, en fait, il n'a pas été ça, puisqu'il a quand même passé 20 années à essayer de trouver des arrangements pour faire des choses qui sont quand même assez clivantes.
Il nous l'a dit lui-même, on l'a rencontré donc à de nombreuses reprises avec Fabrice pour l'interviewer et pour essayer de comprendre ce qu'il écrivait dans ses cahiers. Il nous l'a dit lui-même, je ne suis pas irréprochable, il ne prétend pas l'être. En revanche, ce qu'il prétend être, c'est être loyal vis-à-vis du prince et de son pays, Monaco, c'est un monégasque. Et donc, oui, il n'a pas fait que des choses hyper recommandables, mais lui prétend qu'il l'a toujours fait dans l'intérêt de la principauté, et notamment du prince à qui il doit tout. Et ça, il en démord pas, hein. Il est extrêmement assuré à ce sujet, et il était effectivement associé... avec le prince ou au nom du prince et de la famille régnante, dans 47 sociétés. Et c'est énorme.
C'est énorme.
Mais lui, il dit, je mettais mon argent en même temps que le leur, parce que...
Et c'était une façon de montrer que, du coup, il n'y avait pas de risque dans ses placements.
Voilà, c'était pour rassurer mes clients.
Il a toujours une bonne vision des choses, en tout cas une vision des choses qui lui permet de...
C'était pour rassurer mes clients, pour faire en sorte qu'ils comprennent que moi aussi, je mets mon patrimoine. Alors lui, quand il met son patrimoine, c'est 2%. Hein. Il y a une société qui s'appelle Janus, par exemple, dans laquelle il y a plus de 250 millions d'euros de la famille régnante, et lui, il a mis 2 millions. Quoi. Donc, bon, ça, je le dis avec des guillemets, parce que c'est monumental. Mais... Voilà, c'est le niveau des sommes qui sont investies. Ouais.
Donc vous qui l'avez rencontré, comment vous décririez cet homme, là aujourd'hui, plutôt inquiet, angoissé, plutôt sûr de lui, comment vous le décririez ?
Sûr de lui, non. Il est sûr de ce qu'il a fait. Il est sûr de ce qu'il a fait. Il est sûr de sa position. Il pense qu'il a fait pour le mieux et qu'il a, encore une fois, s'il y a des choses qui sont discutables, c'était soit sur instruction, soit au profit du prince. Donc là-dessus, il paraît assez tranquille, entre guillemets. Là où il est un petit peu inquiet, c'est que, on l'a dit, c'est les Palmeros, c'est une vieille famille monégasque. C'est le rocher, c'est
poussière, dans leur...
donc c'est minuscule, donc tout le monde se connaît.
Ouais.
Et donc lui, sa crainte, c'est que son image, surtout, soit là-bas, soit atteinte, qu'il passe pour quelqu'un de déloyal, tout simplement. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est une idée qu'il ne supporte pas. Alors c'est vrai que c'est paradoxal par rapport au fait qu'il nous a parlé, qu'il nous révèle des choses, plus les choses qu'on a découvertes, qui sont très très embarrassantes. C'est un euphémisme pour la famille princière. Mais lui dit qu'il parle jusqu'à un certain point. D'ailleurs, il y a des choses qu'il a refusé de nous dire. Mais il dit, en fait, on m'a poussé à ça, on m'a forcé à ça. J'ai été évincé, j'ai été viré comme un malpropre, comme vous le disiez. Et je dois me défendre. Je dois me défendre, mais pour autant, je ne veux pas nuire à l'image ni du prince, ni de la principauté en général.
Donc on n'est pas dans une situation, à partir de maintenant, œil pour œil, dent pour dent. Voilà, c'est ma dignité contre celle du prince, en fait. On n'est pas dans cette situation-là.
En quelque sorte, c'est ça. Il veut restaurer son honneur. Il a été viré à lui. Il a été viré comme un malpropre. Et donc, il veut restaurer sa dignité et son honneur. Simplement, il ne faut pas non plus se leurrer, cet homme-là, il est quand même malgré tout en croisade pour sa propre cause. Hein. Il ne supporte pas l'idée qu'on puisse dire qu'il a été, parce qu'il est accusé de détournement de fonds, de corruption, il ne supporte pas l'idée qu'on puisse dire ça de lui. Donc, si le palais le cherche, le palais le trouve.
Oui, donc attention quand même. Enfin, là, chacun a entre les mains quand même.
Il a encore des arguments. À notre avis, il a encore des arguments très forts.
Une bombe à retardement. Autre très gros sujet qu'il est très important d'évoquer aussi pour parler de votre dossier, c'est l'immobilier monégasque. Parce qu'en fait, c'est un peu le cœur de tout ce qui se passe à Monaco et de ce qui se passe dans cette histoire. Voilà, juste pour que les gens comprennent, voilà comment ça se passe à Monaco. L'immobilier est partagé entre trois grosses familles, trois grosses associations de personnes. Il y a la famille Pastor, grande famille qui règne sur une grande partie de l'immobilier à Monaco. Il y a les Caroli et il y a les frères Marzocco. Et à eux trois, ils se partagent à peu près tout le rocher, qui est d'ailleurs, l'immobilier, ça participe une grande partie de la fortune de la famille Grimaldi. Ce qui se passe, c'est que Claude Palmero n'aime pas du tout, ne sent pas du tout la famille Pastor. Il y a les Caroli et puis il y a les Marzocco que, en fait, Palmero a envie de pousser un peu plus dans l'immobilier. Et quand il commence à vouloir pousser Marzocco dans l'immobilier, Pastor le voit mal, se défend. Et c'est un peu c'est là qui signe le début de sa fin, en fait, Palmero.
C'est l'impression qu'on a. Hein, c'est l'impression qu'on a. D'abord, première chose, effectivement, l'immobilier est sans doute la clé de toute cette affaire au départ. Ensuite, il faut bien comprendre que quand Palmero commence à mettre son nez dans l'immobilier, ce qui n'était pas forcément son rôle en tant qu'administrateur des biens ou comptable, hein, mais on l'a expliqué tout à l'heure, il avait pris de plus en plus d'importance et il se comportait un peu plus comme un vice-prince ou un premier ministre qu'un simple comptable. Et donc, il a mis son nez dans l'immobilier et là, il a été choqué de découvrir ou d'avoir la confirmation qu'il y avait une famille, en fait, au départ, qui régnait en maître sur ou en maîtresse sur l'immobilier, c'est la famille Pastor. Qui détenait, mais peut-être 90% du patrimoine immobilier monégasque. Donc c'est énorme. Et donc lui, il s'est dit, mais il faut mettre un peu de concurrence là-dedans. Mmh. Donc il va effectivement pousser des concurrents, dont notamment la famille Marzocco, ce qui va provoquer l'ire de Pastor. Et ça va dégénérer. On sait que le Pastor a commencé à se plaindre, notamment auprès du prince Albert, de l'agitation ou comment dirais-je, des méthodes de Palmero. Palmero lui-même, il nous l'a dit, on en a la preuve dans les cahiers. Régulièrement aller voir le prince en disant non mais Pastor ça va pas du tout, méfiez-vous de lui, il a des manœuvres douteuses voire même illégales, etc. Donc ça, ce conflit n'a cessé de s'envenimer et les deux ont pris en fait le prince Albert comme arbitre, ce qu'Albert n'a absolument pas supporté parce que lui c'est quelqu'un qui déteste le conflit. Il s'est dit mais qu'est-ce que je me retrouve dans la mêlée là, ces histoires de promoteurs, etc., qu'est-ce qu'on vient m'emmerder si je puis me permettre avec tout ça. Et c'est vraiment le début de la fin en fait,
pour Palmero. Le début des problèmes. Et il faut évoquer aussi, évidemment, l'histoire des dossiers du Rocher. Donc ça, c'était en 2021. Il y a donc ce site anonyme, les dossiers du Rocher, qui révèle des documents, des échanges de mails confidentiels, des vidéos, et qui vont dénoncer les quatre dirigeants, quatre chefs, dont Palmero fait partie, et qui vont aussi contribuer à nuire à l'image de Palmero, et qui vont contribuer aussi, si j'ai bien compris, à convaincre le prince qu'il faut quand même prendre un peu de distance avec ce Palmero.
Oui, vous avez tout compris, Ophélie. En fait, et d'ailleurs, c'est chimiquement pur. Pastor ne supporte pas l'idée de se voir évincé de cet empire immobilier. Quelques chiffres, hein. C'est moins de 2 km carrés. Le prix du mètre carré est le plus cher au monde. Et l'appartement le plus cher au monde se trouve à Monaco, plus de 300 millions d'euros.
Oui, ça parlera peut-être à certains de nos auditeurs. On en a beaucoup parlé, cette fameuse tour Odéon.
Exactement.
Avec cet appartement.
Le penthouse au dernier étage.
Au dernier étage. 300
millions d'euros.
Et l'appartement le plus cher au monde.
Et ça, c'est donc un gâteau extrêmement lucratif, Monaco. Et donc, du coup, effectivement, quand Pastor se rend compte que d'autres promoteurs que lui commencent à être poussés par Monsieur Palmero, il voit rouge. Alors, tous ces gens-là, c'est-à-dire ceux qui étaient à l'époque dans l'entourage du prince et qui poussaient les autres promoteurs, se sont vus curieusement accusés par les dossiers du Rocher de fomenter des complots, etc. Mmh. Et donc, ça a créé une atmosphère extrêmement délétère et le prince n'a pas, comme disait Fabrice, n'a pas supporté ça. Et cela étant, le but a été atteint puisque le prince, ne voulant pas se retrouver dans une sorte de cour de récré, comme il le dit dans un SMS, il a préféré siffler la fin de la récré, en virant ceux qui l'entouraient, c'est-à-dire Palmero. Et quelque part, c'est la victoire des pastors.
C'est la victoire des pastors. N'y a-t-il pas, au fond, aussi une dimension extrêmement humaine dans tout ça? Au-delà de l'argent, c'est l'histoire d'un homme qui a le sentiment d'avoir tout fait pour une famille. Il raconte ce détail et je trouve qu'il est loin d'être anodin. Quand je travaillais 12 à 14 heures, je demandais qu'on me fasse un sandwich et en plus, je devais le payer. Donc, il a le sentiment d'avoir tout donné et à la fin du jour au lendemain, il est remercié de manière pas très sympathique. Au-delà de tout, au-delà de cet argent, finalement, c'est juste l'histoire d'un grand déshonneur.
Mais vous savez, c'est souvent comme ça, en fait, dans les affaires que Gérard et moi, on peut traiter, qui sont parfois des affaires politico-financières, qui peuvent avoir des répercussions énormes, parfois des affaires d'État. Il faut jamais sous-estimer l'aspect purement humain. Et là, c'est vraiment ça. C'est une incompréhension mutuelle qui n'a cessé de s'aggraver au fil des mois entre deux hommes qui étaient plus que proches, puisque vraiment Palmero était devenu le confident d'Albert. Il connaissait tous ses secrets. Il remplissait les missions les plus délicates et les plus confidentielles pour le prince. Et donc, ces deux hommes, finalement, ont fini par se séparer parce qu'ils ont eu le sentiment, l'un comme l'autre, d'être en quelque sorte trahis. Albert s'est senti trahi parce que Palmero prenait des initiatives qui lui revenaient dans la figure et que Palmero ne comprenait pas qu'il fallait qu'il arrête de s'agiter, etc. Pourtant, le prince lui a dit. Il y a eu une scène assez mémorable d'engueulade dans le bureau du prince où Palmero lui a parlé, on va dire, de manière très insolente. Et le prince s'est dit, mais on peut pas me parler comme ça, on peut pas parler comme ça à un prince, tout simplement. Et de l'autre côté, vous avez Palmero qui, effectivement, on peut pas le nier, s'est dévoué corps et âme pendant des décennies, en fait, pour la famille princière. Il y trouvait son intérêt, évidemment. Mais en fait, c'est vrai qu'il n'a pas chômé. Et puis, par ailleurs, il a quand même pris des risques. Parce qu'on le disait tout à l'heure, il a ouvert des sociétés à son nom pour aller placer de l'argent dans les paradis fiscaux, etc. Tout ça est quand même, pourrait lui être éventuellement reproché. Plus le fait de mener des opérations à la limite de la légalité, avec notamment les fonds secrets. Et donc, il s'est dit, moi, j'ai fait tout ça. Et du jour au lendemain, on me dit de prendre mes affaires et on me sort quasiment un coup de pied aux fesses de mon bureau. Donc voilà, donc c'est un sentiment d'incompréhension mutuelle et même de trahison mutuelle qui aboutit à ces révélations.
Est-ce que on sent qu'à un moment donné, quand trop de conflits il y a, Albert se sent un peu dépassé en fait par les situations. Donc la question, est-ce que Albert est à la hauteur du rôle de prince pour Monaco?
C'est pas à nous de décréter qu'il n'est pas à la hauteur. En tout cas, ce qu'on peut voir à travers non seulement les cahiers, mais l'enquête qu'on a menée, c'est que déjà, il n'était pas le fils chéri de son père. C'est déjà
autre révélation.
Oui, autre révélation qui était tout à fait intéressant d'un point de vue humain. Régnier est un prince autoritaire. Il a eu un fils qui lui-même ne l'est pas et qui, pour le coup, faisait beaucoup la fête, avait des maîtresses, des enfants illégitimes, un caractère plutôt affable et assez peu et assez velléitaire. Donc, du coup, Régnier s'est dit, mais il peut pas me succéder, c'est pas possible, quoi. Et donc, il a envisagé pendant un moment que ce soit sa fille aînée Caroline, qui pour le coup, elle est quelqu'un d'extrêmement autoritaire, très calibré intellectuellement, etc.
Qui lui ressemble plus aussi.
Qui lui ressemble beaucoup, et il a souhaité que ce soit elle qui lui succède à son décès. Et ensuite, le fils de Caroline, Andrea Casiraghi. Mmh. Et il s'avère que la constitution monégasque ne le permettait pas, et puis surtout, Régnier est mort avant d'avoir pu faire bouger les choses. Et donc, c'est Albert qui lui a succédé. Et Albert qui a fait un discours en arrivant empreint de volonté d'éthique, etc., etc., qu'il pense sincèrement, c'est un vrai écologiste sur bien des plans, eh bien, il s'est retrouvé à gérer des conflits qui le dépassent parce qu'il n'est pas fait pour ça, tout simplement.
Mmh. Fabrice ?
Oui, c'est l'autre aspect important. Tout à l'heure, on parlait de cette espèce de trahison mutuelle. C'est effectivement le fait d'avoir un souverain un peu faible, en fait, qui ne sait pas s'imposer, qui manque d'autorité. C'est pour cette raison, sans doute, qu'il est aussi apprécié, parce que je crois que c'est un homme vraiment gentil, un homme sympathique, etc., cordial. Mais quand on est au sommet, pour exercer le pouvoir, il y a un moment, il faut montrer un peu ses muscles. Et c'est ce qu'il a toujours eu du mal à faire. Et le paradoxe, en fait, c'est que c'est au moment où il le fait, quand il prend une décision justement autoritaire, où il vire du jour au lendemain son conseiller numéro un, et bien que ça lui revient dans la figure. Sans doute parce que, je ne dis pas qu'il aurait dû virer Palmero avant, je ne dis même pas qu'il aurait dû le virer, mais sans doute que cette manifestation d'autorité, il aurait dû l'exprimer bien avant. Et là, c'était un peu trop tard.
Ou différemment, en tout cas. Il vit où aujourd'hui, Claude Palmero?
Monaco, toujours.
Il vit toujours à Monaco. Comment il vit? Il a peur? Est-ce qu'il
Alors d'abord, il vit très bien. Hein. On parle d'un homme qui est millionnaire, qui assume.
Oui, qui vient d'une famille qui a des moyens.
Qui est millionnaire elle aussi. Enfin, tout va bien, financièrement. Hein. Mm. En revanche, il a des problèmes de santé, de grave anxiété. Et par ailleurs, il craint, peut-être pas pour sa vie, mais en tout cas, il nous a confié qu'il faisait très attention quand il fait ses footings, parce qu'il a 67 ans, mais il est droit comme un i, il est tout mince, il fait beaucoup de footing, et il fait très attention quand il court, parce que maintenant, il ne court plus dans les endroits isolés, il court dans les endroits où il y a du monde. Voilà. Oui. C'est quelqu'un qui a, quoi qu'il en soit, maintenant, peut-être pas peur pour sa vie, mais en tout cas pour sa sécurité.
Mmh. Tout ce que... Donc, vous nous avez dit tout à l'heure qu'il en sait davantage, il vous a pas tout dit. Vous, tout ce que vous savez, vous l'avez dit. Tout est dans les...
Alors.
Dans les quatre épisodes.
Je dirais non, mais comme toujours dans les affaires sur lesquelles on s'investit. D'abord, on a récupéré beaucoup de documents, beaucoup de témoignages, etc. Et on n'a, j'allais dire, même pas la place de tout publier, mais on a quand même évidemment donné le plus important, l'essentiel. Et mais surtout, nous, notre critère toujours systématique, c'est est-ce que les informations qu'on a sont d'intérêt public? Or, il y a certaines informations qu'on a pu récupérer dans cette enquête qui, de notre point de vue, sont pas d'intérêt public. Donc, celles-là, on les garde. Voilà, il n'y a pas de frustration, c'est tout à fait normal. On les garde par-devers nous. Maintenant, c'est vrai qu'il y avait, par exemple, quand on parle de l'immobilier, des guerres dans l'immobilier monégasque, etc., on avait d'autres exemples, on avait encore d'autres anecdotes, etc. Mais il y a un moment, il faut savoir, on va dire, terminer une enquête.
Je pense qu'il faut aussi évidemment évoquer Charlène, le cas de Charlène, hein, qui est dans votre dossier. Charlène a contribué à la chute de Palmero, il me semble, tout comme les sœurs du prince Albert. Tout ce petit monde n'aimait pas trop Palmero, parce que finalement, quand même, à chaque fois qu'il demandait quelques milliers, centaines de milliers, voire millions de plus, lui disait « mais attendez, là, ça fait quand même beaucoup, il va peut-être falloir se calmer ». Et ça, ça plaisait pas aux trois femmes, les trois femmes du prince Albert, n'est-ce pas ?
Alors, il y a une anecdote qu'on a racontée, mais... sur deux lignes dans l'article, mais qui est parlante, c'est qu'il y a un jour, la carte bancaire de la princesse Charlène est volée. Cette carte bancaire est volée, et en fait, Palmero, qui reçoit tous les déclarations de, non pas de vol, mais de tout ce qui est répertorié par les banques, reçoit ça, et il se rend compte qu'il y a beaucoup de dépenses, notamment des taxis G7 et des Uber, et il se dit, mais la princesse, elle peut pas prendre des Uber, c'est pas possible. Donc, il se rend compte que la carte bancaire a été volée, et là, il écrit dans son cahier, heureusement que j'ai mis des plafonds sur les cartes bancaires. Et ça lui est reproché, il l'écrit aussi, toutes les princesses ont des plafonds sur les cartes bancaires mises et imposées par Palmero. Et ça les rend folles, quoi.
Ouais.
Et quand je dis princesse, il n'y a aucun sexisme, hein, parce que le prince, il ne peut pas le faire, quoi. Donc, voilà. Mais, et donc, du coup, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, on va le voir tout au long des cahiers, Palmero va être l'homme qui dit non. C'est l'homme qui en sait trop, mais c'est surtout l'homme qui dit non. Donc il dit non, par exemple, la princesse Charlène veut acheter un catamaran, il dit non. Et elle veut acheter une deuxième villa en Corse, il dit non. Elle veut...
Oui, alors qu'elle vient déjà de dépenser plus de 900 000 euros juste pour 2 mois de vacances.
Oui.
On se demande déjà comment on peut dépenser 900 000 euros pour 2 mois de vacances.
C'est...
Peu importe, à la limite.
Il semble qu'elle a un réel talent pour dépenser l'argent. Mais... objectivement, c'est ce que disent les cahiers, c'est pas nous.
Et on apprend aussi que Charlène emploie des personnes qui n'ont pas de papier.
Oui.
Donc, ça aussi, ça passe.
Alors ça, ben, je sais pas si ça passe, parce que c'est, je suis pas sûr que ça passera longtemps, parce que c'est quand même c'est un vrai sujet, qui pourrait techniquement intéresser la justice, éventuellement, puisque on s'aperçoit que, pas seulement Charlène, mais on va dire parmi toutes ces personnes qui sont entretenues, finalement, alors on dit d'habitude, il y a l'expression, on dit aux frais de la princesse, là c'est aux frais du prince, hein, en l'occurrence, mais qui est bien d'accord pour le faire, et bien, il y a beaucoup de besoins, il y a une naissance, ben, il faut trouver des nounous, etc. Et là, on s'aperçoit que tout ce personnel, une partie en tous les cas, va être payé au black, ce qui est déjà un problème, et que parfois, non seulement il est payé au black, mais en plus, certains sont en séjour irrégulier sur le territoire monégasque. Ils n'ont pas de papier en règle, etc. Donc ça fait quand même beaucoup de procédés douteux. Et c'est vrai que ça, on parlait tout à l'heure de ce qui avait pu nous surprendre. Là, on a été surpris, parce qu'on s'est dit, ils ont de tels moyens, honnêtement, autant prendre des personnes qui sont en règle et les payer correctement. Mais on a le sentiment, en fait, qu'on s'est senti du côté de la principauté pendant des années au-dessus des lois ordinaires, si vous voulez, qu'on fait un peu ce qu'on veut avec l'argent. Quoi.
Je reprends votre expression, y a-t-il un syndrome de l'impunité monégasque ?
Total, c'est une famille qui est sous le feu des projecteurs depuis toujours, qui s'en accommode, qui fait des procès souvent à la presse, mais qui s'en accommode, et qui a toujours eu de l'argent plein les poches. Et donc, du coup, et qui, en plus, on parlait tout à l'heure Fabrice parlait tout à l'heure de l'emploi de gens avec un statut irrégulier. Mais qui pourrait le reprocher? Parce que, en fait, la justice à Monaco est rendue au nom du prince. C'est lui qui nomme les procureurs, les juges. Enfin, c'est le serpent qui se mord la queue. Donc, effectivement, l'impunité, elle naît de là. Elle naît du fait qu'ils n'ont de compte à rendre à personne.
Alors, justement, aspect judiciaire. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous sortez tout ça, on s'aperçoit quand même qu'il y a des choses à aller voir un peu et potentiellement à régulariser. Justice va pouvoir être rendue pour ces choses-là?
Bah, et on va dire il faut l'espérer, même si nous on n'est pas procureur.
Mais comment? Mais
normalement.
Comment et par qui?
Alors il y a des cadres juridiques qui existent, puisque actuellement et même depuis plusieurs mois ou années, suivant les cas, il y a plusieurs procédures judiciaires qui sont en cours. Mmh. Il y en a notamment une grosse procédure qui est ouverte pour corruption, notamment, et qui est un peu consécutive à la publication des dossiers du Rocher, mais qui en fait vise toutes sortes d'opérations dans lesquelles il y aurait pu avoir des malversations. A priori, les révélations qu'on a publiées peuvent intéresser les juges d'instruction qui sont en charge de ce dossier. Mmh. Il y a d'autres dossiers judiciaires qui sont déjà ouverts sur des projets immobiliers qui ont suscité la controverse, des plaintes dans tous les coins, etc. Là encore, il y a dans les cahiers et dans nos articles des éléments qui peuvent intéresser les juges. Donc, a priori, dans un système classique, évidemment que les magistrats se saisiraient de cela et en profiteraient pour faire avancer leurs enquêtes. On est à Monaco. On est à Monaco. Les magistrats traditionnellement ont fait preuve de, on va dire, de frilosité, c'est le moins qu'on puisse dire, sans doute parce qu'encore une fois, la justice est rendue au nom du prince. Donc vous voyez un peu quelle est son indépendance possible. Mais il y a quand même des magistrats qui parfois ont envie d'y aller. Les juges qui sont nommés là-bas sont des juges français qui sont en détachement. Et certains, on l'a vu dans l'histoire récente de Monaco, il y a eu des juges qui avaient une vraie volonté d'enquêter. Souvent, ils ont été aussi congédiés pour ça.
La France, la justice française va faire quelque chose? Vous avez connaissance de ça? Est-ce que là, ils sont sur le point de...
Pour l'instant, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des plaintes en préparation parce qu'il y a eu des opérations clandestines qui ont forcément dérangé. Les magistrats français sont détachés sur place. Si jamais il s'avère qu'ils ont bien été espionnés par des moyens clandestins à la demande du prince, évidemment que ces magistrats français qui étaient sur place, je pense notamment au juge Levrault, vont vouloir obtenir réparation ou en tout cas déposer les plaintes pour en savoir plus. Donc ça devrait se faire. Et puis, par ailleurs, dans cette enquête, on a reçu les félicitations de quelqu'un qu'on connaît bien d'une opération ancienne qui était un ex du fisc français, qui s'est réjoui qu'on ait mis tout ça au jour. Je pense que s'il était encore en place, il aurait lancé des opérations de vérification fiscale. Je n'exclus pas que ce soit le cas du côté de Bercy. On n'a pas l'information.
Qu'est-ce qu'il espère maintenant, Claude Palmero, lui, de son côté, à part laver son honneur?
Alors, ce qu'il espère, c'est déjà...
Ce qu'il espère, lui, foncièrement, que ce soit un peu... comment dire, que les choses soient un peu remises à plat sur le rocher et que les choses soient désormais gérées différemment, financièrement parlant.
Honnêtement, je pense que ce n'est pas son souci principal. Je pense que son souci principal, on l'a dit, c'est de rétablir son honneur. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, que les soupçons qui continuent d'être lancés contre lui, de corruption, de malversation, etc., soient dissipés, notamment par les enquêtes judiciaires ou autres. Par exemple, le fait qu'il gérait... des appartements ou des biens en son propre nom, la principauté aujourd'hui dit « mais ça a été fait dans notre dos, c'est à notre insu, etc. » Lui dit « mais c'est n'importe quoi, c'est exactement l'inverse. » Donc lui, il veut absolument démontrer ça pour montrer qu'il a toujours été de bonne foi. Et puis, il y a aussi un aspect financier, puisque, en fait, comme il continuait, une fois qu'il a été renvoyé, il continuait de payer l'impôt sur la fortune d'un tel, telle femme de ménage, etc., puisque tout était à son nom.
Oui, donc ça, il aimerait bien être remboursé.
Et il aimerait bien être remboursé, ce qui, honnêtement, sans prendre parti, me semble quand même le minimum.
Ouais. Est-ce que vous savez, alors, officiellement, vous avez demandé, vous avez accordé un droit de réponse au prince Albert, ils vous ont pas répondu, enfin, en tout cas, ils vous ont pas donné une interview, mais ils ont publié un communiqué officiel qui est, comment dire, étonnant. À aucun moment, déjà, Albert ne nie quoi que ce soit, les cahiers. Bon, en même temps, ça a l'air d'être un fait, tout ce qui a été écrit, et on se dit... On se demande pourquoi Claude Palmero aurait inventé tout ça. Mais en plus, il renvoie la faute sur Palmero. Vous avez été surpris de la teneur du communiqué officiel de Monaco?
Disons que, personnellement, je ne voyais pas comment il pouvait se dépêtrer de cette situation. Parce que, en fait, les accusations sont certes dans les cahiers, mais également, Palmero les profère aussi à visage découvert dans nos articles. Par ailleurs, on a des documents qui les taillent. Et enfin, on a des documents des propres avocats du palais qui viennent dire clairement, il nous représentait, il était prête-nom, il avait un compte DS, enfin, ils assument tout. Donc, nous, on ne lui a pas accordé un droit de réponse, on lui a demandé une interview. Il n'a pas souhaité la faire, mais il nous a fait transmettre un texte que nous avons reproduit in extenso.
Oui, et qui est à la fin d'ailleurs de chaque épisode.
Oui, pour respecter le contradictoire.
De votre dossier.
Qu'il puisse avoir voix au chapitre. Mais ensuite, il s'avère qu'objectivement, ils assument tout parce qu'ils n'ont pas la possibilité de faire différemment.
Il va riposter quand même le prince plus que ça, vous pensez?
Ce serait logique qu'il riposte, mais de quelle façon? Il y a déjà des plaintes qui ont été déposées contre Palmero, donc on peut envisager qu'il en dépose d'autres. Il y a ensuite la riposte médiatique, qui est toujours possible, faire des interviews pour dire « j'ai été trahi », etc. Mais il doit aussi y avoir une petite hésitation chez lui et parmi ses proches, c'est-à-dire que plus vous contre-attaquez et plus vous nourrissez la polémique, alors que lui déteste ça. Lui, ce qu'il voudrait, c'est que tout ça n'ait jamais existé, qu'on parle de la principauté que pour parler du rallye de Monte-Carlo ou du Grand Prix de Formule 1. Et donc, je pense qu'il y a une hésitation entre le fait de savoir est-ce qu'on continue le grand déballage ou est-ce qu'on rentre un peu dans la niche.
Mars 2024 est une échéance aussi importante puisque, donc c'est là très bientôt, une évaluation, il va y avoir une évaluation de Moneyval. Alors je précise pour nos auditeurs, Moneyval, c'est un conseil d'experts européens qui évalue notamment les mesures de lutte contre le blanchiment. Cette évaluation très prochaine, vous pensez, inquiète Monaco et notamment depuis la sortie de votre dossier?
Je crois que oui, c'est une évaluation qui va être importante pour Monaco parce qu'ils étaient sortis de tout ce qu'on appelle les listes noires et listes grises qui permettent de classer les pays selon, en termes de paradis fiscaux. Bon, en vrai, c'est un paradis fiscal, Monaco, puisqu'on n'y paye pas d'impôts sur le revenu. Mais ils étaient sortis de tout ça. Et là, le fait qu'on révèle que le prince détenait plusieurs centaines de millions d'euros dans des sociétés offshore au Panama ou aux îles Vierges britanniques, ben, ça ne fait pas vraiment bon ménage avec une volonté de transparence.
Il y a peu de doutes sur l'issue de l'évaluation, il me semble, de Moneyval.
On ne peut pas savoir, on ne peut pas s'avancer, on ne peut pas dire, bien sûr, Moneyval va remettre Monaco sur la liste grise, voire pire, etc. Mais disons que dans l'évaluation, je pense qu'ils avaient déjà des éléments qui leur laissaient penser que Monaco était pas irréprochable, mais là, c'est vrai que ça charge la barque et qu'il y a un risque, c'est vrai qu'il y a un risque que on dirait que la note de Monaco soit dégradée et qu'éventuellement ils réintègrent une liste grise qui serait vraiment quelque chose de très pénalisant parce que ça a même été examiné, ça a été prouvé, ça a été établi. Le fait de se retrouver sur une telle liste vous fait perdre, ça fait fuir en fait des investisseurs, ça anéantit des projets, ça peut avoir un coût très très élevé financièrement parlant.
Donc il y a un vrai risque là-dessus pour Monaco. Le scénario de... On fait le dos rond, on attend que ça passe, et puis finalement... À la fin, c'est désolant, mais ça passe. Et tout continue comme avant. Il est probable.
C'est comme ça qu'il fonctionne depuis des dizaines d'années.
Je vous sens un peu désolé, Fabrice.
Il fonctionne comme ça depuis des dizaines d'années. Après, juste le lendemain de nos révélations, il y avait un numéro de Closer au Doissy qui paraissait. On voyait la princesse Stéphanie qui prenait dans ses bras la princesse Charlène. Or, ce qu'on sait vraiment, c'est que les princesses sont vent debout contre Charlène. Et elles sont...
Les princesses Stéphanie et Caroline.
Et Caroline sont vent debout contre Charlène et elles sont tout à fait serrées derrière en pacte de rugby, derrière le prince Albert. Mais quelle est leur marge de négociation ou de riposte? Il n'y en a pas 36, ils vont faire comme d'habitude, ils vont faire des jolies photos dans Paris Match et ailleurs, et puis en espérant que l'eau coule sous les ponts, parce que là-bas ils ont un terme qui est essentiel pour eux, ça s'appelle le temps long. À Monaco, le temps est long, beaucoup plus qu'en France.
Oui, on pourrait se revoir tous les trois dans 4 ans et se dire que finalement le bilan de tout ça, c'est pas grand-chose malheureusement.
C'est tout à fait possible, mais ce serait dommage qu'il n'y ait pas une évolution tout de même, parce qu'après tout, le travail des journalistes d'enquête notamment, c'est, j'allais dire, de faire bouger les choses dans un sens positif, d'améliorer des systèmes qui fonctionnent mal. Et là, c'est vrai que s'il y avait un peu plus de transparence dans la gestion des comptes de la principauté, ce ne serait pas un mal. Mais après tout, nous, on l'a toujours dit, on n'est pas acteurs, nous. Nous, notre rôle, c'est de mettre sur la place publique des informations, qui s'en saisit, qui veut s'en saisir, et les suites, elles nous échappent.
Et d'expérience, on sait que vos enquêtes ont parfois secoué jusqu'au plus haut sommet de l'État. Vous avez dit à nos confrères de Point de Vue, ce dossier, c'est un mélange entre Succession et The Crown. Donc la prochaine forme, c'est quoi? C'est une série sur une plateforme?
Nous, on n'est pas
un docu-réalité.
Oui, mais nous, on n'est pas scénariste ni co-réalisateur, même si on l'a déjà été d'ailleurs.
Oui, vous l'avez
déjà
été.
C'est pas le fond de notre travail, mais je pense qu'il y a tous les ingrédients d'une série incroyable.
Fabrice?
Oui, ou plus si affinité, ça pourrait être un film. Enfin, on peut imaginer toutes les déclinaisons, parce qu'il y a en fait tous les ingrédients pour passionner, on l'a bien vu à travers la série, qui a eu beaucoup de succès, tous les ingrédients pour passionner tout le monde. Et pas, quand je dis tout le monde, c'est pas seulement dans le monde entier, même si c'est le cas, mais c'est aussi des personnes...
People, sociétales, financières, judiciaires.
Je pense que le n'importe quelle personne, même en France, quel que soit son poste, qu'elle ait un poste de responsabilité importante ou pas du tout, trouve quelque chose ou un sujet d'intérêt. Hein, que ce soit un sujet fiscal, un sujet financier, un sujet people, etc. Donc oui, c'est sûr que ça passionne et je crois que ça va continuer de passionner beaucoup de gens.
Et je sais que l'investigation ne vous laisse jamais tranquille puisque vous avez déjà d'autres dossiers en cours et puis on se reverra peut-être pour cela.
Ce sera un plaisir.
En attendant, j'invite vraiment nos auditeurs, parce qu'on a vu beaucoup de choses, je dois le reconnaître auprès de nos auditeurs, c'était dense cet échange entre nous trois. Il y a encore plein d'autres choses, je les invite vraiment à aller découvrir ces 4 épisodes de ces cahiers secrets, hein, on aime ce titre aussi, de Monaco.
Ou cahier confidentiel, c'est comme si vous préférez.
Et allez, cahier confidentiel, et c'est à découvrir bien sûr dans Le Monde. Merci à tous les deux. Gérard Davet, Fabrice Lhomme, vous êtes toujours les bienvenus sur RTL. À bientôt.
Merci beaucoup.
Merci.
Et merci à tous de nous avoir écoutés. C'était Confidentiel Albert de Monaco, un numéro fait en équipe avec Dany Matouk à la réalisation, Thomas Pierre à l'écriture et Marie-Caroline Mandon à la programmation et à la production. Je vous rappelle que tous les autres épisodes de Confidentiel sont disponibles à tout moment sur RTL.fr ou sur l'appli RTL.
RTL.